La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition du 6 novembre 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Avec vous, Camille Grosdidier, en compagnie d'Anne Robertson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, suite à la visite à Ouagadougou d'une délégation de la CEDEAO, les partis politiques, la société civile et les dirigeants religieux et traditionnels ont convenu d'une transition d'un an.
La rencontre avec la Troïka présidentielle a débouché sur un schéma de transition en 6 grands points.
Notre correspondant Zoumana Wonogo nous en dira davantage.
Barack Obama a demandé au Congrès américain plus de 6 milliards de dollars pour combattre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Et par ailleurs, le président américain a évoqué les leçons de la double victoire des Républicains aux élections de mi-mandat au Sénat et à la Chambre des représentants.
Le président s'est dit prêt à travailler avec les Républicains pendant ces 2 dernières années à la Maison-Blanche. Il leur a demandé de fournir un agenda très spécifique et là où leurs idées coïncident avec les siennes, il est disposé à les examiner pour arriver à des compromis.
D'autres détails dans notre magazine avec Lionel Gaïma.
Et puis en fin d'émission, les sports et la musique en compagnie de Roger Muntou. Tout d'abord, le journal.
Suite à la visite mercredi à Ouagadougou d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les partis politiques, la société civile et les dirigeants religieux et traditionnels ont convenu d'une transition d'un an, mais aucun accord n'est intervenu sur la personnalité appelée à diriger la transition. Le point avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
La rencontre avec la Troïka présidentielle a débouché sur un schéma de transition en 6 grands points. Écoutons les détails avec Kadré Désiré Ouédraogo.
Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de la levée immédiate de la suspension de la Constitution, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'un an, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015.
Pour le nom du prochain président de la transition burkinabé, il faudra encore patienter, mais pas trop, assure Macky Sall, le président du Sénégal.
Nous avions voulu dans la journée, mais ce n'était pas évident, avoir ce nom. On se rend compte que ce n'était pas la peine aussi de se précipiter au point de compromettre ce que nous recherchons, raison pour laquelle nous laissons ici l'équipe de négociateurs poursuivre les discussions avec toutes les parties pour un dialogue inclusif, global, qui devra permettre dans quelques jours, vraiment 3 ou 4 jours peut-être, d'arriver à ce consensus pour trouver une personnalité indépendante, une personnalité en tout cas acceptée par tous, qui soit civile, qui pourrait diriger la transition.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Le président Barack Obama a demandé au Congrès américain près de 6,2 milliards de dollars de fonds d'urgence pour combattre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest et pour protéger les États-Unis contre toute propagation du virus. En réponse à cette demande, le président de la Chambre des représentants, John Boehner, a déclaré que le Congrès étudiera la requête de l'administration.
La Maison-Blanche souhaite obtenir 4,5 milliards de dollars pour une réponse immédiate à la maladie mortelle et 1,5 milliard en fonds de réserve pour parer à d'autres éventualités. Cette requête coïncide avec un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui indique un ralentissement des nouveaux cas d'Ebola cette semaine au Libéria, alors qu'on signale environ le même nombre de cas en Guinée que la semaine dernière et une augmentation du nombre de malades en Sierra Leone.
L'Organisation mondiale de la santé, très critiquée pour sa gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a élu hier sa nouvelle directrice pour l'Afrique. On écoute Félix Yepasi-Sembrou.
Matidiso Rebecca Moïsi est médecin originaire du Botswana. Elle a été élue par les représentants des 46 pays africains membres de l'OMS, réunis hier à Cotonou au Bénin. Elle devra remplacer l'Angolais Luis Gomez-Sambo en poste depuis 2005 et dont le mandat expire en début 2015. Elle a déclaré qu'elle va travailler avec les partenaires pour améliorer l'appui au système de santé des trois pays africains les plus touchés par l'Ebola. L'OMS a été très critiquée par sa réaction tardive face à l'épidémie qui s'est déclarée en début d'année en Guinée forestière. Malgré des alertes répétées de l'ONG Médecins sans frontières, ce ne sera que le 8 août, c'est-à-dire plus de 20 semaines après, que l'OMS va tirer la sonnette d'alarme et dire que l'épidémie est une urgence de santé mondiale. Aujourd'hui, près de 14 000 malades sont recensés et environ 5 000 personnes sont mortes dans 8 pays, dont la majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
En Tunisie, 4 militaires ont été tués hier dans une attaque contre leur bus dans le nord-ouest du pays. Jean-Roger Bion.
Selon l'AFP, deux hommes armés ont ouvert le feu sur un bus qui transportait les militaires tunisiens. 4 soldats ont été tués et 11 autres ont été blessés. L'attaque s'est produite non loin de la frontière algérienne, où les forces armées traquent depuis la fin 2012 des combattants djihadistes, surtout dans la région du Mont Chambi. 15 soldats ont été tués en juillet dernier. Dans cette même zone, par un groupe de 40 à 60 terroristes, selon les autorités, le pire assaut du genre dans l'histoire de l'armée tunisienne. En 2013, 8 militaires avaient été sauvagement tués, dont certains égorgés après une embuscade dans la même région. Les autorités tunisiennes ont à plusieurs reprises affirmé leurs craintes sur de nouvelles attaques. Le pays vient d'organiser des élections législatives le 26 octobre et s'apprête à tenir une présidentielle le 23 novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama affirme que les États-Unis et leurs alliés ont remis à l'Iran un projet d'accord sur son programme nucléaire. Néanmoins, il faudra plusieurs semaines avant qu'on sache si Téhéran l'accepte, a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse mercredi à la Maison-Blanche, M. Obama a fait valoir que ce cadre permettrait aux Iraniens de répondre à leurs besoins pacifiques en matière d'énergie.
C'est la première fois que M. Obama soulève la possibilité d'un accord définitif avec l'Iran, ce qui permettrait à ce pays d'échapper aux sanctions paralysantes imposées par la communauté internationale. Certes, les négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne, se poursuivront jusqu'à la date butoir du 24 novembre, mais la longue tradition de méfiance entre les différentes parties persiste. Reste à voir, a dit le président Obama, si les dirigeants iraniens feront ce qui serait le mieux pour leur pays et leur reste du monde.
La destruction du programme d'armes chimiques de la Syrie est presque terminée, a déclaré Gary Quinlan, l'émissaire des Hautes Nations Unies de l'Australie, qui a assumé samedi la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de novembre. Mais ce n'est pas encore chose faite. La démolition d'une dizaine de centres de production d'armes chimiques, de 7 hangars et de 5 tunnels souterrains sera achevé vers le milieu de 2015, a-t-il déclaré mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appris qu'une installation utilisée pour produire de la ricine doit également être détruite. Ce n'est qu'en septembre que la Syrie a divulgué son existence.
Et toujours selon l'ambassadeur Quinlan, il faudra encore vérifier les déclarations du gouvernement syrien sur l'étendue de son arsenal et ses capacités de production de gaz mortel. Damas a accepté en 2013 d'éliminer son programme d'armes chimiques après qu'une attaque au sarin le 21 août 2013 avait coûté la vie à des centaines de personnes dans le quartier de Ghouta, une banlieue de Damas.
Et finalement, la Française Lydie Salvert a été sacrée hier par le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, pour un roman sur la guerre d'Espagne. Claire Morin-Gibourg.
« Pas pleurer » de Lydie Salvert a été préféré par les jurés. Immédiatement après l'annonce du Goncourt, la romancière a fondu en larmes de joie. Son livre, qui porte sur la guerre d'Espagne, est un vibrant hommage à une mère et s'est écrit dans un mélange de français et d'espagnol. Cette langue hybride, le fragnol, est l'une des singularités de Lydie Salvert, née en 1948 de parents espagnols exilés dans le sud de la France pour fuir le franquisme. Bernard Pivot, président de l'Académie Goncourt, a souligné que c'est un livre à l'écriture très originale, même s'il regrette qu'il y ait parfois trop d'espagnols. Célèbre dans le monde, le Goncourt reste la consécration suprême pour un auteur. C'est aussi un jackpot avec 400 000 ventes en moyenne pour le roman primé et des traductions en hausse.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique avec vous, Camille Gros-Didier. Il est 5h40 temps universel. Les réactions sur la chute du président, de l'ex-président Blaise Compaoré du Burkina Faso continuent. Paul Sankara, le frère cadet de Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors du coup d'État de Blaise Compaoré, a salué la lutte héroïque du peuple burkinabé. Paul Sankara vit ici, à Washington. Il pense que l'heure de la justice dans son pays a sonné.
Ma réaction est double, quoi. Elle est à la fois celle de jeune frère de Thomas Sankara, mais c'est aussi l'ancien militant, le militant que j'étais sous la Révolution, qui réagit, j'allais dire, favorablement à l'organisation populaire de ces millions de personnes, de jeunes qui, dans la rue, ont dit non aux 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré.
Alors, ça fait 27 ans, hein. Est-ce que à un certain moment, vous avez pensé que ce jour-là n'allait jamais arriver?
Non, je n'ai nullement pensé en cela. D'autant plus qu'il y a des précédents, même si c'est dans d'autres pays ou dans d'autres continents, où c'est le cycle normal humain. Quel que soit ce que vous donnez aux gens, à un moment donné, ils s'en lassent, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est comment le déroulement allait se faire, le dénouement du moins de cette situation. C'est vraiment, je priais pour que ce ne soit pas du tout chaotique, contrairement aux termes qui sont utilisés aujourd'hui. Ce n'est pas un chaos, c'est plutôt le chaos a été les 27 ans.
Alors, on a vu, hein, la plupart des manifestants étaient très jeunes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu Thomas Sankara, mais le nom de Sankara était partout. Est-ce que ça vous a surpris?
Non, modestement, je dirais que non. D'autant plus que depuis son assassinat en octobre 1987, il y a eu pas mal de gestes symboliques ici et là, y compris des gestes forts, des organisations qui se réclament de son idéal, des places qui sont baptisées à son nom, hors du Burkina même. Donc, cette jeunesse qui ne l'a pas connue physiquement vit aujourd'hui ne serait-ce qu'en partie de ses idées, de ses idéaux.
Pour vous, est-ce que c'est le moment qui est venu de réhabiliter entièrement Thomas Sankara?
Non, la première des choses, c'est qu'on fasse les choses comme il se doit. Il y a une justice, ou alors elle n'existe pas au Burkina. Tous les dossiers, y compris celui effectivement de ce qui a été communément appelé l'affaire Sankara, soit mise à jour et que la justice fasse ce qu'elle doit faire afin que la vérité jaillisse d'abord, justice soit rendue et ça aidera beaucoup à une éventuelle réconciliation.
Paul Sankara, frère de Thomas Sankara, il était interrogé par Bagassi Koura. Et puis, toujours concernant l'ex-président Blaise Compaoré, eh bien, selon le président ivoirien Alassane Ouattara, M. Compaoré, qui a été chassé du pouvoir suite à de violentes manifestations dans son pays, pourra rester en Côte d'Ivoire aussi longtemps qu'il le souhaite. Il est tout naturel pour la Côte d'Ivoire d'accueillir M. Compaoré, a estimé cette semaine M. Ouattara, vu les événements douloureux dans son pays. Mais voilà, que pensent les nombreux ressortissants burkinabés vivant à Abidjan de la présence de l'ex-président du Faso à Yamoussoukro, dans la ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne? Leurs avis ont été recueillis par notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
L'ex-président Blaise Compaoré est depuis quelques jours à Yamoussoukro, dans la ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ce point de chute suscite des commentaires de la part de ses compatriotes.
Maman Placide, je ne suis pas d'accord pour que le président vienne en Côte d'Ivoire actuellement. Il a semé une zizanie dans son pays, il faut qu'il reste. Fini avec ça d'abord, et puis quand l'histoire va être dans les normes, ils vont prendre une sanction contre lui, le président. Parce qu'on a besoin d'un président pour diriger.
Ça va de Gouali. La venue de Blaise en Côte d'Ivoire, on sait que c'est un événement malheureux. C'est le changement qui nous intéresse. 27 ans, c'est trop, mais il faut une continuité.
Le pouvoir, c'est chacun son tour. Le CEP ne peut pas gérer le pouvoir. Il va durer à ce point-là, c'est chacun son tour.
Soma Kardia, ici de Nyangologo. J'apprécie son arrivée parce qu'il a fait, ça m'a plu. Il a montré qu'il aime son peuple. Donc, ça m'a plu. Je le remercie beaucoup. Si tous les présidents pouvaient regarder son exemple pour faire ça, ça allait trop me plaire.
Donc, je crois que tous les Burkinabés qui sont là-bas, ils vont chercher le bon président pour qu'il va diriger le pays.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Rémi Grosdidier avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Il est 5h45 temps universel. Le président Barack Obama a donné une conférence de presse mercredi pour tirer les leçons de la double victoire des républicains aux élections de mi-mandat au Sénat et à la Chambre des représentants. Pour lui, le peuple américain a envoyé un message clair mardi soir, à savoir qu'il veut que les politiciens travaillent aussi dur que possible et fassent leur travail. Lionel Gaïma.
Monsieur Obama a reconnu que les républicains ont eu indéniablement une bonne nuit électorale et il a félicité leurs leaders à la Chambre et au Sénat. Le peuple américain a dit dans sa grande majorité que Washington ne fonctionne pas bien et le tient responsable, a ajouté Monsieur Obama. Le président s'est dit prêt à travailler avec les républicains pendant ses deux dernières années à la Maison-Blanche. Et il leur a demandé de fournir un agenda très spécifique. Et là où leurs idées coïncident avec les siennes, il est disposé à les examiner pour arriver à des compromis. Barack Obama a réaffirmé son intention de prendre comme promis des décrets pour réformer les lois sur l'immigration.
If in fact there is a great eagerness on the part of Republicans to tackle a broken immigration system.
Le président a dit en substance que sa préférence a toujours été un projet approuvé par les deux chambres du Congrès et qu'il avait déjà dit aux leaders républicains qu'en cas d'adoption d'un projet bipartisan, son décret deviendrait automatiquement caduc. Le Sénat démocrate avait adopté un texte similaire, mais il n'a jamais été soumis à la Chambre basse par son président John Boehner. Maintenant que les républicains contrôlent les deux chambres, ils peuvent passer une loi de réforme et la lui soumettre pour signature, a-t-il déclaré. Mais il a expliqué qu'il ne pouvait pas attendre ad vitam aeternam, d'où sa décision de prendre un décret sur l'immigration. Pour nombre d'analystes politiques citant des républicains, cela équivaudrait à empoisonner l'atmosphère. Et le sénateur Mitch McConnell, futur leader de la majorité républicaine au Sénat, a exprimé l'espoir que M. Obama ne le fasse pas. Le président a défendu son bilan et parlé des progrès enregistrés depuis la grande récession d'il y a 6 ans. Mais s'il est prêt au compromis, il y a un Rubicon à ne pas franchir. L'abolition de son programme d'assurance maladie, l'Obamacare.
Repeal of the law, I won't sign.
Barack Obama avertit qu'il ne signera aucune loi qui démantellerait ou compromettrait l'Obamacare. Aucune loi n'est parfaite, a-t-il expliqué, en disant qu'il restait cependant prêt à examiner toute suggestion qu'il améliorerait ce programme d'assurance maladie. Ce qu'il a appelé des changements responsables. Cela dit, le président a reconnu qu'en démocratie, il est normal que le Congrès prenne des mesures qu'il n'approuve pas et vice-versa. En attendant, il est prêt à aller prendre un pot du Bourbon de Kentucky avec le sénateur de cet État, M. McConnell, qui sera en janvier le nouveau patron de la Chambre haute.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum, ce jeudi plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, sans oublier bien évidemment un suivi de la situation au Burkina Faso. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique, rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui, en Centrafrique, Amnesty International appelle la mission de l'ONU sur place à prendre des mesures courageuses pour sortir le pays du cycle de la violence. Dans son dernier rapport, l'Organisation des droits humains a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire en RCA et selon elle, la crédibilité des Nations Unies est en jeu. On écoute Jean-Éric Nkourikiye, chargé de campagne à Amnesty International.
La situation en République centrafricaine, elle est déplorable, la situation sécuritaire. Vous savez sûrement qu'il y a eu plusieurs attaques au début du mois d'octobre. Mais là, spécifiquement, nous faisons aussi état de la situation sécuritaire qui s'est extrêmement aggravée dans la région du centre de la République centrafricaine, notamment dans la ville de Bambari et d'Ekoa et autour de ces deux villes.
Alors vous avez trouvé un bouc émissaire, c'est l'ONU pour vous?
Pour nous, l'ONU n'est pas un bouc émissaire, mais l'ONU a déployé une mission de pacification, la MINUSCA, en République centrafricaine au mois de septembre, depuis le 15 septembre 2014, ayant mandat justement de protéger les civils en République centrafricaine. Mais malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a pas pu être capable d'effectivement protéger les civils en République centrafricaine qui sont toujours victimes des attaques de la part des différents groupes armés, aussi bien la CEDEAO, les anti-Balaka, mais aussi dans cette région de la République centrafricaine, de la part des Peuls qui sont maintenant armés et qui prennent partie au conflit.
S'agit-il d'un manque de volonté de la part de l'organisation mondiale ou bien y a-t-il un problème particulier en Centrafrique?
Il faudrait que la MINUSCA puisse prendre des mesures plus courageuses afin de protéger justement ces civils-là. Premièrement, la mission des Nations Unies, donc la MINUSCA, elle est supposée avoir 12 000 hommes sur le terrain, mais malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a que le 2/3 de cet effectif-là. Et tant qu'il n'y a pas un déploiement complet, nous estimons que ce ne sera pas du tout possible ou qu'il est impossible que cette mission puisse accomplir sa mission. Nous organisons un déploiement rapide et complet des forces qu'il puisse se déployer dans toutes les régions, notamment la région du centre, où il y a eu un regain d'attaques sur les civils récemment.
Jean-Éric Nkouri-Kiyé, qui est chargé de campagne à Amnesty International, il était joint par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Ici Washington, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, près de 2000 personnes ont fui des attaques d'un groupe de miliciens sécessionnistes appelé Bakata Katanga. Eddie Isango revient sur la situation qui prévaut dans la région.
Les déplacés avoisinent le nombre de 2000. Ils sont contrés à l'errance par l'avancée des près de 600 combattants qui apparemment se dirigent vers Lubumbashi, capitale de la province riche en minerais du Katanga. L'évêque de Kilwa, Katsenga, Monseigneur Jean-Fulgence Muteba, que nous avons interviewé, affirme que les déplacés ne sont pas assistés.
Les gens se sont précipités pour se sécuriser. Normalement, le mode opératoire des miliciens, c'est l'incendie des maisons. Dans des villages, effectivement, il y a des villages qui ont été incendiés.
De nombreuses opérations militaires ont été menées contre ces groupes dont les leaders ne s'est jamais identifié, mais qui fait de la sécession du Katanga son objectif ultime. Monseigneur Muteba parle de la complicité dont les groupes bénéficieraient de la part des forces de sécurité.
Ils disent officiellement qu'ils s'étaient entendus avec leurs commanditaires qu'il n'y aurait plus d'attaque jusqu'en 2016, la date butoir justement pour la date à laquelle il y aura des élections présidentielles. Comme ils ont été attaqués, ils disent qu'ils vont demander des explications aux autorités, à leur chef. C'est le motif qu'ils avancent. La plupart d'entre eux ne connaissent même pas les frontières du Katanga. Alors, on pense que c'est un prétexte, mais généralement, ce sont des jeunes gens désœuvrés, parfois même des illettrés, des gens qui sont manipulés. Mais ils avancent ça comme motif parce qu'ils disent que toutes les richesses du Katanga sont acheminées à Kinshasa. Généralement, ils profitent du comportement des tracasseries des agents de l'État, des policiers ou des agents de service de renseignement.
L'armée congolaise et la mission des Nations Unies qui sont présentes dans la région n'ont jamais pu mettre fin aux activités de ces groupes de miliciens. Aux dernières nouvelles, l'armée congolaise a délogé mercredi matin un groupe de ces miliciens de la localité de Moussoumari.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Et on enchaîne avec les sports, présentation Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Football d'abord, avec la quatrième journée de la Ligue des champions en Europe.
Oui, dans le groupe E, Manchester City est tombé 2-1 face au CSKA Moscou. Bayern Munich s'est qualifié pour les huitièmes de finale en écrasant l'AS Rome 2-0. Dans le groupe F, le Paris Saint-Germain s'est également qualifié pour les huitièmes en battant 1-0 l'APOEL Nicosie. Défaite de l'Ajax d'Amsterdam, 2-0 face au FC Barcelone. 2 buts de Lionel Messi. Le Barça s'est qualifié. Dans le groupe G, 4-2 pour le Sporting Portugal contre le Schalke 04. Match nul, 1 but partout entre NK Maribor de Slovénie et Chelsea de Didier Drogba. Dans le groupe H, lourde défaite 5-0 de Baté Borisov contre les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Et enfin, qualification aussi du FC Porto qui a battu l'Athletic Bilbao 2-0.
Le président de l'UEFA, Michel Platini, a déclaré mercredi être prêt à organiser la finale de la Ligue des Champions 2022 en juin.
Oui, Michel Platini veut s'adapter à un éventuel changement de date du mondial au Qatar qui pourrait se dérouler exceptionnellement en hiver. Michel Platini milite pour une Coupe du Monde en janvier et février 2022, alors que la FIFA semble privilégier la piste de novembre-décembre. Un groupe de travail de la FIFA travaille actuellement sur la faisabilité de déplacer la Coupe du Monde en hiver au lieu des traditionnels mois d'été en raison de très hautes températures que peut connaître le Qatar en juin et juillet. La FIFA doit annoncer les dates de la Coupe du Monde en 2022 en mars de l'année prochaine.
Et on termine avec le championnat nord-américain de basketball, la NBA. Un peu de magie pour Orlando qui a battu Philadelphia de justesse, 91-89. Miami s'est incliné devant Charlotte, 96-89. Detroit a gagné devant New York par 98-95. Toronto a battu Boston, mais de seulement 3 points, 110-107. Minnesota a expédié Brooklyn par 98-91. Et puis, il a fallu qu'Indiana et Washington aillent en prolongation au désavantage des Pacers, finalement battus par 96-94. Chicago a facilement expédié Milwaukee, 95-86. Il s'en est fallu de seulement 2 points pour que San Antonio batte Atlanta sur le score de 94-92. Et aucun complexe pour Memphis qui a écrasé Phoenix par 102-91. Et on enchaîne avec la musique en compagnie de Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Camille. Dans les années 1950, la célèbre rumba congolaise dominait le continent. Un demi-siècle plus tard, elle n'a rien perdu de sa jeunesse, hein, même si elle a subi entre-temps de nombreux et radicaux liftings parmi ses chirurgiens les plus inspirés. Papa Wemba, l'homme plein de vivacité, d'humour, d'intelligence et de talent. On écoute ce matin le plus grand sapeur congolais dans Victime de la mode.
Papa Wemba arrive ce week-end aux États-Unis. Il sera dans le Minnesota et puis ici à Washington, D.C.
Papa Wemba, créé en 1977 à Viva la Musica, groupe d'une quinzaine de musiciens hein, qui, après des multiples transformations, existe toujours 20 ans plus tard. À ce moment-là, le jeune homme est une star dans tout le Zaïre hein, et au-delà de fleuves qui encerclent le pays. Son impact dépasse de loin le cadre de la musique. Dans les faubourgs de Kinshasa, étendu sur toute une parcelle d'habitation, le chanteur recrée un village. Le village de Molokai, dont il s'introduise chef coutumier Camille.
Papa Wemba, victime de la mode. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Camille. Bonne journée à vous et à tous les amis qui sont en train de nous suivre ce matin à Kigali.
Et bien sûr, vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel. On abandonne la musique, c'était Le Monde Aujourd'hui au micro Camille Grosdidier et Anne Robertson. Une très bonne journée à l'écoute de la VOA.